18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, chers amis, bonjour, bonjour d'être... je suis ravi de vous retrouver comme un lundi qui démarre cette semaine. Vous savez, bonjour, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Les Informés. Votre émission, j'ai tendance à le rappeler, mais je le dis toujours en permanence. C'est votre magazine, votre émission, celle, évidemment, qui occupe votre esprit, parce qu'on est là aussi avec aussi de la légèreté, c'est-à-dire des sujets qui sont sérieux, mais qu'on commente de façon un peu légère, même si parfois on pousse un peu l'analyse. Alors, 18h-19h30, au sommaire de cette émission, ce que je vous propose, on reviendra sur cette terrible victoire, évidemment, le gouvernement, la classe politique réagit, et ça fait donc réagir, y compris en France, vous savez pourquoi, parce que, eh bien, Macron, enfin bref, la classe politique française s'inquiète aussi, y compris de la poussée de des extrêmes, ici en France, on en parlera, et on prendra le temps d'en parler, y compris au 01-53-48-3000, tout à l'heure, à 18h10, j'ouvrirai l'antenne et j'en parlerai avec vous. Et puis, alors, autre sujet, chers amis, c'est celui du face-à-face. Le face-à-face avec nos débatteurs influenceurs qui viendront commenter l'actualité. On reviendra sur l'Italie, la victoire donc de l'extrême droite. On reviendra également aussi sur la réforme des retraites. On parlera de Julien Bayou, mais également aussi de la Russie. Et finalement, on posera la question si finalement Vladimir Poutine n'était pas isolé tout court pour le moment. Allez, les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais. En toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Eh bien, c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec aujourd'hui, pour ouvrir cette semaine, Aude de Castet. Bonjour Aude.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes alors, vous, porte-parole des Territoires de Progrès. Vous êtes délégué régional Normandie de Territoires de Progrès. Je tenais absolument à vous inviter aujourd'hui parce que vous êtes en pleine actu et cette actualité nous concerne. On va parler des extrêmes. Tout d'abord, vous avez organisé un événement, justement, samedi dernier, à Gaillon, me semble-t-il, dans l'heure, hein.
Oui, tout à fait. C'était la première université régionale de rentrée de Territoire de Progrès Normandie. Et on a choisi l'heure, c'est pas par hasard, c'est parce que Territoire de Progrès, qui est une des composantes de Renaissance, dans la majorité présidentielle, à gauche dans la majorité présidentielle, eh bien, on a vu que ce département avait perdu les 5 circonscriptions qui appartenaient à la majorité présidentielle,
oui.
4 au profit du RN et une circonscription au profit de la NUPES. Donc tout le département est passé aux extrêmes. Et le soir même des élections,
oui.
Avec les militants de Territoire de Progrès, on s'est dit qu'il fallait retourner immédiatement sur le terrain, pas attendre les campagnes électorales.
C'est inquiétant ce que vous dites, ma chère Aude de Castet. Justement, on est en pleine électoralité. Quand vous voyez ce qu'on... Évidemment, on se réveille ce matin avec la victoire en Italie de l'extrême droite. Ça vous fait réagir? Ça vous interroge, Aude de Castet?
Mais oui. En fait, toute la journée de samedi où se tenaient nos universités de rentrée à Gaillon, on a pensé à l'Italie et aux Italiens. On savait bien qu'on était la veille d'un risque majeur de basculement de notre voisin, de notre partenaire européen, l'Italie, vers les extrêmes. Donc forcément, on est très inquiet, très inquiet.
Très inquiet, justement. Quel bilan, quelles leçons vous en tirez, quel enseignement vous tirez de votre événement qui s'est déroulé samedi, justement, quand on parle des extrêmes? J'ai bien compris, Aude de Castet, que ce qui vous a poussé à monter cet événement, c'est justement les résultats en pleine élection qui vous ont interpellé.
Oui, oui, oui. Alors, l'Eure est un département significatif, mais en fait, dans toute la Normandie, des pertes de circonscription au profit des extrêmes. Et puis, quand on voit en Italie, quand on voit ce qui s'est passé en Hongrie, quand on observe ce qui risque de se passer aux Pays-Bas et en Espagne, nous, on ne veut pas se résoudre à ce que la France bascule.
Donc Suède, Italie, Pays-Bas, potentiellement, Espagne, potentiellement France.
Et France, point d'interrogation. Eh bien, nous, on se dit que c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut reprendre le terrain. Et lors de ces universités, c'était la parole aux militants qui étaient, mais pleins d'envie de reprendre le terrain et plein de propositions, de solutions concrètes pour contrer les extrêmes. Moi, je peux vous en donner deux, si vous voulez, mais en fait, je sors de ces universités, on pourrait même faire un guide. En fait, ce n'est pas une fatalité. On a les moyens, on a des solutions pour contrer les extrêmes, pourvu qu'on veuille retourner sur le terrain, pourvu qu'on veuille, par exemple, se dire qu'il faut faire plus de place aux femmes en politique, les femmes militantes, des femmes élues, et puis aussi parler aux femmes. Parce que la gauche a quitté l'électorat populaire, qui maintenant vote aux extrêmes, mais ça passe
également. Vous pensez vraiment, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour interroger nos auditeurs, vous pensez vraiment que le peuple a quitté la gauche, l'électorat de gauche, au détriment des extrêmes?
Oui. Je le pense. Extrême gauche, extrême droite.
Oui, j'ai bien compris.
Et si on ne leur parle pas, et si on ne va pas les voir, là, par exemple, une solution concrète, c'était d'aller les rencontrer. Alors, de retourner sur les marchés, mais en fait, ils ne vont plus sur les marchés. On a bien identifié qu'ils vont, les électorats populaires, les plus précaires d'entre nous, ils vont dans les magasins discount, ils vont dans les foires à tout. Ils vont dans les vides-greniers, ben c'est là où il faut qu'on aille. Aller à leur rencontre, les écouter leur colère, les débattre et contre-argumenter sur tous les sujets. Ne pas laisser certains thèmes à l'électorat, au Front National, au Rassemblement National, pardon. Non, on doit s'emparer de tous les thèmes. Vous voyez ce qui s'est passé?
Aude de Castet, vous savez quoi? Je vais vous poser une question qui taraude pas mal. Alors, finalement, Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, est-ce que finalement on ne peut pas considérer que parfois c'est aussi des extrêmes, et y compris l'extrême droite, quand on cogne sur la démocratie, quand on cogne par exemple sur certaines thématiques, est-ce que ce n'est pas considéré non plus aussi comme l'extrême droite?
C'est souvent, vous avez, quand vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon, moi je vais prendre le cas de la NUPES en général, eh bien vous avez des extrêmes. Dans la NUPES. Pas tous. C'est un mouvement qui est très divisé, en fait. Mais effectivement, vous avez dans l'extrême gauche de la NUPES des propositions, des positionnements qui rejoignent tout à fait ceux du RN. Et en particulier, je pense à le fait qu'ils soient contre l'Europe. Par exemple, ce sont des positions. Aujourd'hui, on peut finalement la politique est en train de se reconfigurer et vous avez d'une part les extrêmes populistes qui sont contre l'Europe et puis de l'autre côté ceux qui sont pour une Europe plus sociale, une Europe plus protectrice, une Europe.
Dites-moi, Aude de Castet, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, justement. Ça va nous permettre d'alimenter le sujet de tout à l'heure. Aude de Castet, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable poussée de l'extrême droite dans l'Hexagone, en France?
Oui, il y a une véritable poussée de l'extrême droite dans l'Hexagone en France, absolument.
Ils sont déjà installés. On peut considérer qu'ils sont dans le paysage politique. Quand on voit au Parlement, au sein de l'hémicycle, 89 députés de l'extrême droite, ça y est, ils sont au pouvoir.
Ça y est, ils sont très très proches du pouvoir. Mais moi, je ne résoudrai pas, et à Territoire de Progrès, on refuse d'accepter la montée des extrêmes comme une fatalité. En fait, pourvu qu'on redescende sur le terrain, pourvu qu'on aille à la rencontre de nos concitoyens, qu'on aille leur parler, qu'on reprenne attache avec les couches populaires, qu'on parle aux mères isolées. Quand je parlais des femmes, je pense en priorité à celles qui élèvent seules leurs enfants, les familles monoparentales, qui sont pour 1 sur 3 en dessous du seuil de pauvreté. Il faut absolument les embarquer avec nous pour leur éviter de sombrer dans les extrêmes en les accompagnant, en leur donnant des dispositifs pour les aider à élever leurs enfants qui sont quand même la France de demain, notre richesse. Donc voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là, il faut absolument reprendre
justement,
le combat militant.
Justement, la France de demain, elle est proche, 2027. On va tenter de faire de la politique fiction. L'extrême droite est aux portes du pouvoir?
L'extrême droite est aux portes du pouvoir et si on ne bat pas campagne maintenant sans attendre les campagnes électorales, eh bien, effectivement, l'étape d'après, ce sont les villes. Après, ce sont les agglos. Ce sont des grands électeurs qui vont voter pour les sénatoriales. Et oui, c'est un danger qui existe. Et aujourd'hui, c'est très prégnant, bien sûr.
Vous disiez que dans les cinq circos de la majorité, justement dans l'heure, quatre ont profil du Rassemblement National, un de la NUPES. C'est un peu à l'image de notre France. Vous comptez, vous, sensibiliser justement cette France et comment ?
Oui, vous voyez, nous, on a lancé au sein de Territoire de Progrès cette première université. Alors, c'était la première université régionale pour la Normandie, mais finalement, c'était la première université régionale tout court pour Territoire de Progrès. Et là, elle va être déclinée dans les autres régions. Il faut absolument que ça parte du terrain, des territoires, des militants. Les solutions viennent de la part des militants. C'est pas en ultra-verticalité depuis Paris.
Oui.
Ça marche pas. C'est ça aussi la solution. C'est d'aller écouter, d'être au plus proche du terrain.
Dites-moi, l'heure, c'est une chose. Est-ce que, évidemment, c'est un laboratoire qui doit servir de leçon pour le reste de la France ?
Alors, j'aime pas tellement votre terme laboratoire, en fait. Ou alors, si c'est pour qu'on dise que ça va être un laboratoire pour les militants qui vont expérimenter d'autres et des nouvelles démarches jusqu'à ce qu'on reprenne ces cinq circonscriptions, qu'on les arrache au RN et à la NUPES, moi je peux vous dire que quand j'ai vu mes militants qui habitent dans l'heure le soir du résultat des élections où ils avaient des larmes dans leurs yeux, une détresse, je me suis engagée à ce qu'on y retourne le plus vite possible et je l'ai organisé cette université de rentrée pour tenir ma promesse auprès d'eux. Il y avait avec nous des Manchois, des habitants de la Manche, du Calvados, du fin fond de la Seine-Maritime, des Côtes-d'Alsace. Tout le monde s'est déplacé dans l'heure, en soutien en premier lieu pour les habitants de l'heure, pour nos militants, qui pour leur dire de ne pas se résigner, de reprendre le combat, et de rien lâcher. Nous ne lâcherons rien.
C'est un peu notre devise ici aussi. Hein. Non. Tous les jours, c'est ce que je dis, on ne lâche rien. Aude de Castet, quel est votre prochain chantier, justement, pour sensibiliser davantage à la fois les citoyens, mais aussi les électeurs ? Parce qu'il y a les élections dans quelques mois, dans un an, évidemment, prochaine, il y a les sénatoriales, il y a aussi également les euros, enfin bref, il y a toute une série d'élections prochaines.
Oui, alors je vais vous dire, déjà, ça va être de faire savoir, de faire connaître toutes les remontées des propositions qui sont issues de cette université de rentrée et de les promouvoir, et pas seulement de les promouvoir, de les appliquer. Voilà, et de ne pas attendre les prochaines échéances. C'est maintenant et tout de suite. Voilà, il faut remonter sur le tonneau, aller débattre, c'est au-delà du symbole, c'est effectif, aller débattre, aller écouter nos concitoyens, aller à leur rencontre et argumenter, contre-argumenter sur tous les thèmes, ne rien laisser comme thème pour les extrêmes. On doit se les approprier et apporter nos solutions à nous pour une vision de société que nous défendons, plus solitaire, plus juste, et défense de notre République sur le socle de la fraternité. Moi, je parle beaucoup de ce pilier de notre République qui est la fraternité.
Merci Aude de Castet, vous êtes porte-parole des territoires de progrès, mais aussi déléguée régionale Normandie de territoire de progrès. C'était très important que vous soyez avec nous aujourd'hui. On viendrait certainement sur ce sujet d'actualité. Merci Aude de Castet.
Eh ben, n'hésitez pas, merci à vous.
Merci à vous surtout. On va très très bientôt, bien sûr, avec grand plaisir. 18h15 précisément. Tiens, je vais ouvrir l'antenne 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Je veux vous entendre partout en France. Évidemment, venez réagir à cette poussée de l'extrême droite. Peut-on considérer aussi, y compris Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous le mettez dans la catégorie, parfois sur des thématiques considérées comme des sujets d'extrême droite? Venez en parler, justement. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez la Suède? Aude de Castet vient de nous dire que, voilà, on parle aussi de l'Espagne, du Pays-Bas, mais aussi la France. Alors, 01 53 48 3000, je vous attends à tout de suite. Le Standard vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h22, c'est l'heure d'ouvrir l'antenne, 01-53-48-3000, je vous attends, chers amis auditeurs, justement pour parler de l'extrême droite. Après l'Italie, vous savez, l'Italie qui donc a eu cette poussée nette de l'extrême droite, ça y est, elle est au pouvoir, les législatives en Italie, donc Meloni revendique la direction du gouvernement. Alors finalement, est-ce qu'on peut parler de claque, mais surtout, chez nous en France, vous savez quoi, on parle de plus en plus d'une poussée de l'extrême droite. Est-ce que vous êtes inquiet finalement? Est-ce que vous considérez que l'extrême droite ou les extrêmes tout court, c'est-à-dire y compris Jean-Luc Mélenchon, qui parfois est considéré comme certains spécialistes, certains experts, sur certains sujets par exemple, qu'il est considéré comme l'extrême droite, quand on parle de démocratie, quand on parle de certains sujets. Alors, et quand on parle aussi de l'Europe. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Je voudrais vous entendre, justement, parler avec nous, échanger, venir commenter. Je vous attends, je ne bouge pas, 01-53-48-3000. 01-53-48-3000, le standard est ouvert. Et puis j'attends donc le premier auditeur qui puisse venir donner son point de vue sur est-ce qu'il pense qu'il y a une poussée de l'extrême droite. Est-ce que Marine Le Pen peut se retrouver au pouvoir? Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, bref, celles et ceux, vous savez, qui aujourd'hui eh bien, sont considérés comme potentiellement arrivés au pouvoir. 01-53-48-3000, je vous attends. 01-53-48-3000, tout de suite là, maintenant, sur ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une poussée de l'extrême droite? Je vous attends tout de suite. On vous attend au standard 01-53-48-3000. À tout de suite.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, on donne la parole. Et rien que vous, c'est votre créneau. Le créneau, justement, qui vous appartient au 01-53-48-3000. Parlons-en, justement. Il faut, c'est important, parce que ça nous concerne tous. Nous vivons en France, nous sommes nés en France, nous avons grandi en France. Alors, peut-être que certains, vous savez, j'ai déjà eu des auditeurs qui m'ont dit... Ça leur fait pas peur d'avoir l'extrême droite au pouvoir, même bien pire que cela. Certains m'ont dit, et peut-être finalement, ça peut changer les choses. Allez, écoutons Jamila. Bonjour Jamila.
Bonjour.
Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Jamila?
Je suis auto-entrepreneur dans le nettoyage.
Ben, ça marche bien.
Alhamdoulilah.
Bon, alhamdoulilah, vous aussi. Vous nous appelez de quelle ville, Jamila?
Aix-en-Provence.
Ah, Aix-en-Provence. On vous écoute alors. Dites-moi tout concernant la poussée de l'extrême droite. Franchement, Marine Le Pen au pouvoir, tout ça.
Écoutez, je rejoins ce que vous venez de dire à l'instant. Écoutez, il faudrait les laisser passer pour vous. Il paraît qu'ils sont meilleurs que les autres, alors il faut les laisser passer peut-être.
Oui. Vous considérez pas qu'on peut, il faut, on doit les laisser passer?
Ouais, il faudrait les laisser passer, ouais.
Pourquoi? Dites-moi tout.
Parce qu'ils disent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, donc il faut voir en fait. Et jusqu'à présent, honnêtement, tout ce qu'on a eu, ils sont pas très top. Alors, je suis pas du tout pour l'extrême droite, mais il faut leur laisser la chance. Peut-être qu'ils sont meilleurs. Hein.
Mais c'est terrible ce que vous dites. Vous dites qu'il faut leur laisser la chance. Oui. Donc vous, ça ne vous dérange pas d'avoir, par exemple, je donne un exemple, Marine Le Pen en 2027.
Ouais, ça me fait pas peur en fait. J'ai peur du bon Dieu en vérité.
Ouais. Ouais, non, on ne sait pas. Évidemment, il y a Dieu, la religion, mais il y a aussi la politique. Moi, je veux vraiment qu'on scinde les deux et qu'on se dise, essayons vraiment de se poser quelques... C'est pour ça que c'est important d'en parler avec vous. Je sais que votre point de vue va faire réagir. Franchement, Jamila, l'extrême droite est au pouvoir, vous, il n'y a aucune crainte, ça ne vous dérange pas plus que, évidemment, il n'y a pas de combat à mener.
Si, il y aurait un combat à mener, mais pas pour les contrer en fait, parce qu'à un moment, ça fait longtemps qu'ils veulent passer et ils clament haut et fort qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors il faut les laisser passer pour justement voir s'ils sont meilleurs que les autres, parce que ce qu'on aime pour l'instant, ils sont pas bons du tout en fait.
Écoutez, ça va faire réagir vos propos, vous le savez, mais c'est très bien, c'est le but, hein, c'est dans les informés, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Jamila, merci à vous.
Merci à vous aussi.
Et bonne continuation à vous dans ce que vous faites. Jelina Lyon. Bonjour Jelina. Bonsoir Angelina.
Oui, bonjour.
C'est original votre prénom, Angelina.
Oui, bah, il faut un peu d'originalité dans ce monde.
Hein. Ouais, j'aime bien. Lorsque vous entendez Jamila dire, ça lui pose pas de problème d'avoir au pouvoir l'extrême droite, Marine Le Pen par exemple, vous répondez quoi? Vous le partagez ou comment ça vous fait réagir?
Alors, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire, dans le sens où je pense que c'est surtout qu'elle veut dire qu'on aimerait bien les voir au pouvoir pour voir justement si tout ce blabla, tout ce qu'ils nous offrent comme promesses, qu'ils offrent justement au peuple français, les promesses, les modifications.
Ça me choque, moi, mais bon, moi, ça me perturbe un peu quand vous dites tout ça. Mais je vous écoute. C'est votre espace de liberté, mais bon.
Je ne veux pas les voir au pouvoir. C'est pas un souhait que j'ai justement de voir ça, mais je pense que pour ouvrir peut-être les yeux au peuple français.
Ouais, mais vous êtes en train de dire quand même, laissons-les. Vous dites, laissons-les quand même.
Laissons-les, non. J'irai pas jusque-là, j'irai pas de moi-même voter pour eux, mais je comprends ceux qui ont en tout cas ce point de vue-là. C'est ça que je veux dire. C'est pas une envie qu'on a justement, nous, jamais de la vie, on a envie de les voir, de voir ces gens-là au pouvoir avec des idées pareilles au pouvoir.
Ouais.
Se dire en fait que peut-être que les personnes qui nourrissent cet espoir de se dire on veut les voir au pouvoir justement pour avoir des changements, de voir tout ce qu'ils nous promettent, de les voir vraiment réaliser ce genre de choses et se rendre compte qu'au final tout ça c'est du vent. Parce qu'on sait très bien que la plupart de toutes les idées, toutes les promesses qu'ils font, ben, une fois qu'ils seront au pouvoir, on ne les verra jamais au final.
Ben, je vais faire le tour de la question. Ça va évidemment forcément provoquer un débat. Angelina, merci d'être intervenue.
Avec grand plaisir. Un grand merci à vous parce que c'est toujours un plaisir de vous écouter.
Ben, écoutez, c'est partagé. Moi aussi, c'est un vrai plaisir de vous avoir quotidiennement dans les informés sur BFM. Vous savez, c'est vous les informés avant tout, faut pas l'oublier. Tiens, on va aller direction l'Espagne, parce que l'Espagne, il y a une grosse inquiétude, justement, de l'extrême droite. L'arbi de Valence, Valencia. Bonjour l'arbi.
Oui, bonsoir BFM, bonsoir Adil, ça va?
Ça va très bien, mon cher l'arbi. Quel plaisir de vous entendre depuis l'Espagne. Vous savez qu'on dit qu'en Espagne, il y a une vraie poussée de l'extrême droite. Là, pour le coup,
comme
l'Italie, l'Espagne a peu à avoir peur. Hein.
Tout à fait, il y a Vox en Espagne. Je suis un petit peu leur actualité, et ils se rapprochent du Parti Populaire.
Oui,
c'est
bah justement,
ça va faire la même
Suède,
chose.
Italie,
faire
la même le chose. Prochain sur la liste, c'est l'Espagne.
Non, le prochain, je vais vous dire qui c'est. Le prochain, c'est la France, figurez-vous.
Ben, on parle, on dit de plus en plus l'Espagne, hein. Et ensuite la France.
Oui. Ah oui, non, mais l'Espagne, oui, bien sûr. Non, mais moi, je parle pour la France, on y a droit, quoi. Quand vous voyez Ciotti, Wauquiez et compagnie, ils sont à quoi? Ils sont à une feuille de cigarette de l'extrême droite, quoi. Je veux dire, il y a rien, quoi. Donc ils vont s'accorder pour passer, parce que le Front National tout seul ne passera jamais.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir comme en Italie des coalitions, des alliances.
Ah mais c'est obligé, Adil. Regardez ce qu'ils ont fait les LR au présidentiel. Une catastrophe. Ils ont fait une catastrophe, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se
rattraper. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'en gros, LR, si Éric Ciotti est au pouvoir à la présidence, il peut faire une alliance avec Marine Le Pen. Je le vois pas du tout faire ça.
Mais je vais vous dire mieux. Éric Ciotti sera ministre de l'Intérieur. Moi, je vous le dis. En 2027. Et vous verrez si c'est propre. Parce que je suis l'actualité depuis très longtemps. Moi, je peux vous dire, c'est parti pour, quoi. C'est une autoroute. C'est une autoroute. En plus, avec Macron qui fait ce qu'il veut, qui n'écoute rien. Mais on va à la catastrophe, quoi.
On va à la catastrophe. Jamila, tout à l'heure, une auditrice d'Aix-en-Provence nous disait.
Oui.
Vous avez entendu? Ça vous choque? Ça vous surprend?
Il faut laisser passer. Bien sûr que ça me surprend. Surtout d'une Jamila, donc je pense qu'elle est du côté du Maghreb. Donc, bien sûr que ça me choque. Moi, ça me choque d'autant plus. D'autant plus. Mais il faut voir les discours qui sont prononcés. Ouais. Et puis, il faut voir ceux qui sont. Et puis, il faut surtout voir les discours qui ne disent pas.
Attendez, l'arbi. C'est très, très important ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de me dire que, potentiellement en France, s'il y a une alliance de toutes les droites,
L'extrême droite
peut se retrouver au pouvoir.
Non, mais ils sont au pouvoir, c'est garanti. Bah, les socialistes, ils ont 7-6%. Mélenchon, il y a toujours un rejet sur lui, sur la personne. Pas sur la NUPES, hein. Enfin, pas sur la France Insoumise, sur Mélenchon.
Ouais.
Ce qu'ils proposent, moi, personnellement, je suis pour.
Bon.
Je suis avec eux. Mais le problème, il est là, quoi. Le problème, il est, les Français ne voteront pas à 51% pour Mélenchon. Voilà.
Bon.
Donc, vous êtes fidèle, je vous dis, on y a droit. Hein.
Ouais. Bon, vous nous écoutez depuis Valence, ça se passe bien, Beurre FM, là-bas?
Ah ben c'est parfait, là, je suis à la retraite, je me suis installé là-bas, tranquillement.
Vous avez bien raison. Et
il fait 25, si vous voulez un peu de chaleur.
Envoyez-nous de la chaleur, envoyez-nous. Envoyez-nous, on en a besoin. Figurez-vous qu'à Paris, il fait froid, là, le retour du froid.
Je sais, je le sais. Mais je vous écoute tous les jours, hein.
Ah, ça fait plaisir. Franchement, l'Arbi, ça fait plaisir. Vous savez quoi? Je vous fais une spéciale dédicace parce que vous êtes à Valence et parce que vous êtes en Espagne. Et que je kiffe l'Espagne, moi.
Ah, mais vous pouvez venir Marabar, quoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'Arbi. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. 0150, prenez soin de vous. Profitez du beau temps. 0153483000. Je vous attends. Évidemment, comme tous les auditeurs, là, maintenant, partout en France, venez livrer votre point de vue, justement, point de vue qui concerne l'extrême droite. On est en train de dire, les auditeurs sont en train de dire, justement, que, eh bien, il est possible d'avoir Marine Le Pen et qu'il faut la laisser au pouvoir. Moi, je vous avoue que ça me choque un peu. Moi, je n'aurais pas dit de laisser Marine Le Pen au pouvoir, franchement. Il est où notre combat ? Il est où cette identité ? Il est où tout ce qu'on a traversé depuis 40, 50 ans ? Nos parents, nos arrière-grands-parents, nous-mêmes, nos petits-enfants, vous imaginez ? Ça veut dire que tout ça risque de tomber à l'eau ? Pour simplement laisser dire, ah, laissons-les faire pour voir ce que ça donne. Mohamed de Marseille. Bonjour Mohamed. Mohamed, vous êtes en direct, Mohamed.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir depuis Marseille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mohamed ?
Alors, je suis dans la police municipale.
Mais c'est bien. Pourquoi vous faites celui genre « Ah, bah, très non, bien !» Vous avez un véritable rôle.
Exactement. Moi, non, ça m'a un peu... c'est incroyable ce que j'entends. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est que l'Europe entière va mal. D'accord, l'Europe va très très mal. Donc dire le Front National ne passera, mais le Front National s'il passe, il fera quoi? Il fera rien du tout. C'est Bruxelles qui dirige tout. D'accord. Donc du coup, dire le Front National, Marine Le Pen va arriver. Non, moi je dis Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir. Il faut arrêter de rêver. Et les gens qui pensent, oui, il faudrait changer,
qu'est-ce
il faudrait
qui vous
donner
dire
la chance. On ne peut pas s'exprimer comme ça et dire ah, il faut leur donner la chance. Ça veut dire quoi? Il faut leur donner la chance. On ne joue pas au loto. Ouais. C'est pas un loto. Ouais. Merde. Si ces personnes-là, ils ont un problème et qu'ils veulent que ça change, ils ont un problème parce qu'ils sont maghrébins comme moi et j'en suis fier, c'est qu'il y a un problème. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Putain, quand il y a des problèmes, il n'y a personne qui va manifester. Ils sont tous chez eux. Oh, non, il faut arrêter ces bêtises. Le Front National n'arrivera jamais au pouvoir. Le prochain, ça sera la droite qui passera. C'est la droite qui passera et ça restera toujours comme ça. La France ne changera pas à moins qu'il y ait une guerre. À moins qu'il y ait une guerre. Parce que là, on ne comprend plus rien. Ce qui se passe. Il y a des problèmes partout. Sur tous les territoires.
Ouais.
Donc, je ne sais pas. En tout cas,
C'est comme ça.
J'espère le bonheur pour tout le monde.
Mais exactement.
C'est tout.
Merci, voilà. Mohamed de Marseille. Ça va, le rapport avec la population? J'imagine que bien, vous êtes une vraie police de proximité.
Alors,
on en a besoin.
Exactement. Alors, moi, big up à tous les policiers municipaux de la France. Ils font un travail noble, dur, difficile. Très difficile.
C'est vrai.
Très, très, très difficile. Donc,
je
sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qu'il faut. Les jeunes parents vrillent, comprennent rien. Ils ont plus espoir. Ils veulent se faire de l'argent au plus vite. Au plus vite, ils veulent se faire de l'argent. Et je sais pas. Honnêtement, je comprends plus rien. Bon. Je comprends plus rien. Voilà.
Mohamed, revenez quand vous voulez sur l'antenne. Hein.
C'est un plaisir.
Partagez.
C'est un plaisir. Au revoir.
Au revoir, à très bientôt. Prenez soin de vous, on va marquer la pause. Et on se retrouve tout de suite après, justement, avec le face-à-face. Mais vous continuez à nous appeler au 0153 48 3000 à tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h43, merci d'être avec nous. Vous continuez de nous appeler au 0153 48 3000. C'est parti, jingle, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec, vous savez, les débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Mehdi Jaziri, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, comment ça va?
Très bien.
Tout va bien? Attendez, on va vous ouvrir le micro, on n'entend pas du tout. On va ouvrir le micro.
Bah ça commence bien.
Ouais, non, mais c'est comme ça, vous savez.
On a voulu me taire dès le départ. Non, je suis un peu enrhumé là, ça me saoule.
Bon, c'est la saison. Hein.
C'est la saison, ça commence.
C'est la saison, et pourquoi vous dites ça commence? Comme si, genre, c'est normal.
Bah parce que vous savez très bien pourquoi je suis enrhumé, Adil, on en a parlé il n'y a pas longtemps.
Bon,
je me lave les cheveux le matin et je sors sans me laisser sécher.
Bah voilà, vous aussi, séchez vos cheveux. Un tout nouveau parmi nous, Karim Liazid, bonjour.
Bonsoir.
Attendez, on va ouvrir le micro aussi de Karim. Voilà, c'est le direct. Comment ça va, Mehdi?
Bonsoir, ça va. Salut
Karim,
Mehdi.
Tout va bien.
Voilà, juste un petit coucou, j'avais oublié ton prénom, excuse-moi.
Ouais.
Et tout va bien, ça va, je suis très content d'être parmi vous.
Parmi nous aussi, c'est partagé. Karim Liazid, vous êtes aussi un acteur franco-algérien, justement, engagé sur les questions de société. C'est pour ça que vous vouliez aussi absolument venir aux informer.
Entre autres, oui.
Quelle est votre actualité du moment, en ce moment?
En ce moment, le dernier film, c'est Héliopolis, que tu as vu au Centre culturel algérien, qui est en train de tourner actuellement
un peu partout, bien. Hein.
Qui marche très bien. Et bientôt, on va le présenter en Croatie, tiens. C'est,
en Croatie?
Oui. Ça va être super.
Très beau film.
Un très beau film, oui.
Très, très beau film. Moi, j'ai été subjugué. Franchement.
T'as beaucoup aimé?
Ah ben j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Est-ce que
aimé.
T'as pleuré?
Pleuré non, mais j'ai aimé.
Voilà. Ben moi, regarde.
Il m'en faut beaucoup moi pour pleurer. Hein.
Ah,
il
oui.
faut un décès ou voilà.
Ah ben, quand même, à la fin c'était quand même très triste. Et
oui,
je sais
c'est
pas
vrai
si
que c'est
parce
triste,
que je suis peut-être acteur, mais j'ai pleuré les deux fois que j'ai vu le film. J'ai
un mélancolie.
Ouais. Ouais. T'as rien qu'on parle d'Héliopolis, le film. Oui, il faut se mettre à la page. Hein. Il faut aller le voir. Donc, vous êtes là pour débattre avec nous, justement. Thierry Paul Valette, justement la figure, une des figures emblématiques des Gilets jaunes. Thierry Paul Valette, ça va?
Oui, bonjour, Adil. Ça
vous
va,
êtes avec nous par téléphone. Mais vous auriez dû être sur le plateau, mon cher Thierry.
Oui, il y a une confusion et j'en suis vraiment désolé, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais en tous les cas, on va discuter au téléphone et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire tous ensemble.
Absolument. Allez, on va parler de cette victoire. Le gouvernement, le patriotisme, la classe politique réagit en France. Les élections en Italie, justement, est-ce que ça doit nous interroger, Thierry Paul Valette?
Bien sûr, ça doit nous interroger, ça doit aussi nous alerter. Il y a une montée des nationalismes en Europe ces dernières années, et finalement, ce qui se passe en Italie actuellement, c'était prévisible. C'est une banalité, et malheureusement, la montée des extrêmes et de la porte poussée des nationalismes est devenue quelque chose de banal. Il y a un climat social qui est très tendu. En France, on va rentrer dans la réforme des retraites. On est dans un tournant aussi au niveau de l'énergie. Il y a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les citoyens, les populations sont confrontés à ça. Et il y a une radicalisation de la société, il y a une radicalisation du discours politique, justement, qui sont un boulevard pour la...
Je vous demanderai, Thierry Paul Valette, s'il vous plaît, de bien parler devant votre combiné, de ne pas utiliser le parleur, parce que malheureusement, ça devient inaudible à l'antenne. S'il vous plaît,
d'accord.
Thierry Paul Valette.
Voilà, là, ça va mieux?
Un peu, ouais.
Bon, alors, donc, oui, il y a malheureusement une forte poussée des extrêmes et des nationalismes en Europe ces dernières années. L'Italie, finalement, c'était quelque chose de prévisible. Actuellement, il y a la guerre en Ukraine, il y a la problématique avec le réchauffement climatique. En France, il y a la réforme des retraites qui est amorcée et certainement le 43-9 qui va passer. Donc la société se radicalise, les discours politiques se radicalisent et bien évidemment et malheureusement, c'est un boulevard à l'extrême droite. C'est triste et il faut le combattre.
Il faut le combattre, justement. Alors que les auditeurs disaient, pourquoi pas les laisser aussi, hein, parce qu'il faut peut-être aussi les tester. Vous les avez tous entendus. Qu'est-ce que vous pensez, évidemment, qu'est-ce que cela vous inspire, ces élections? Enfin, ça y est, cette victoire en Italie.
Bah,
Mehdi Jaziri.
Écoutez, moi, je trouve ça normal. Enfin, je trouve ça logique, du moins. Pas normal. Logique, pourquoi? Parce qu'en Italie, aujourd'hui, il faut savoir aussi dans quelle situation, parce que c'est pas la même situation en Italie. On a un rapport vis-à-vis de l'Europe qui est différent. Avec la migration qui est déjà différente. Hein, là, par exemple, je crois en août, on a eu 6000 Tunisiens qui sont arrivés en Italie. Donc voilà, et ça, c'est très médiatisé. Donc forcément, ça va permettre à l'extrême droite de monter beaucoup plus facilement qu'en France, par exemple. Maintenant, je vais prendre ce que disait Monsieur Paul Valette.
Thierry Paul Valette.
On te prend tout son nom, pour en donner. je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on a une montée des extrêmes. Maintenant, dire que... parce que j'ai l'impression qu'on parle de l'extrême droite, j'ai l'impression que c'est de la faute de l'extrême droite que l'extrême droite est en train de monter. Non, l'extrême droite fait simplement son jeu politique comme les autres partis politiques. Pourquoi est-ce que l'extrême droite fonctionne? Et pourquoi aussi les autres extrêmes fonctionnent? Parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite. Le problème, c'est pas l'extrême droite, c'est les extrêmes, de manière générale. Enfin, au bout d'un moment, non mais on voit aujourd'hui que l'extrême gauche est en train de monter, pas forcément dans l'échiquier politique, mais dans les rues, on le voit dans les manifestations. On voit que l'extrême droite monte sur l'échiquier politique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Faut dire ce qui est, il y a eu, là, ça fait depuis quelques années que je vois une montée de comptes Instagram et de comptes TikTok d'extrême droite, hein, disant des choses quelquefois même très choquantes, qui explosent. Voilà, il faut parler aussi de ça, c'est la société finalement. Et je pense que la politique reflète ce qu'est la société. Pour une fois, on a vraiment un peuple et un milieu politique qui se ressemblent vraiment. Là où le point où je veux en venir, c'est que on a vraiment aujourd'hui tout le monde qui essaye de s'informer un peu plus sur la politique, qui essaye de se politiser. Ça, c'est vrai, même chez les jeunes. J'avais fait la dernière enquête d'audience pour la jeunesse, j'ai pu constater que les jeunes se politisent de plus en plus. Maintenant, est-ce qu'ils le font bien? Et c'est ça la question. Où est-ce qu'on va chercher notre information? Comment? Et est-ce qu'on va vraiment chercher l'information? À l'époque, on allait les chercher dans les livres, on allait avoir des discussions politiques, on allait voir le terrain. Aujourd'hui, on va sur Instagram, on va sur TikTok. Le problème, c'est que sur
Instagram... Vous avez entendu tous les auditeurs tout à l'heure réagir?
Oui, mais... Enfin, les auditeurs aujourd'hui sur
moi,
quoi ils se basent.
Surpris.
Moi, j'aimerais savoir sur quoi ils se basent, les auditeurs aujourd'hui. J'aimerais savoir sur quoi le peuple se base aujourd'hui.
Et ils l'ont dit, hein.
Non, mais à part sur les deux, trois discussions et les posts Facebook, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est aussi la question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, de manière générale, ne veulent plus vraiment voir qu'est-ce qui se passe chez leurs voisins, ne veulent plus vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. Et c'est pour ça qu'on a une radicalisation. Parce qu'on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Donc on va aller, c'est très simple. Vous savez, qu'est-ce que c'est que la radicalisation? C'est simple. La réalité est beaucoup trop compliquée, donc on va aller vers la chose la plus simple. Mmh. C'est comme le complotisme. Vous voyez, la réalité est très compliquée à saisir, donc on va aller vers une réalité plus simple. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, ceux qui parlent des juifs, par exemple, je sais que c'est tabou de parler des juifs, mais plein de gens disent que les juifs contrôlent le monde et que c'est eux qui font la guerre dans le monde. C'est beaucoup plus simple de penser ça, finalement, que de comprendre l'évolution des marchés, de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, le capitalisme, etc. Et en fait, c'est ça le problème du radicalisme. Et ça, en fait, finalement, c'est beaucoup plus profond que simplement parler de l'extrême droite parce que ce sont des grands méchants, parce qu'Éric Zemmour ressemble, excusez-moi, c'est la blague qui sort tout le temps, à Gargamel et que Marine Le Pen dit des choses dangereuses. Non, ça c'est un énorme problème et je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment bien s'informer.
Karim Yazid.
Moi, je suis pas un grand spécialiste de la politique, mais ce que je peux dire, c'est un constat qu'on fait. C'est vrai qu'il y a eu une radicalisation, le nationalisme qui monte de plus en plus. Il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi, depuis de nombreuses années, peut-être que nos politiques qui ont passé tout ce temps ont mal fait leur travail et qui fait aujourd'hui il y a un malaise. Et quand on a mal, on va accuser toujours l'autre. C'est l'étranger, c'est lui qui nous pique le pain, c'est lui qui nous.
C'est ça. Ça veut dire finalement la gauche, elle a délaissé peut-être le terrain.
Il n'y a pas que la gauche. Ouais. La droite aussi joue de l'extrême. Hein. Parfois, ils utilisent des idées que j'ai remarquées. L'époque de Sarkozy, c'était incroyable. On piquait carrément les idées de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un parti meilleur que l'autre. Il faut absolument s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faudrait que les citoyens s'impliquent davantage dans la politique, qu'ils n'aient plus peur.
Mais peut-être que les citoyens sont déçus. C'est peut-être ça aussi.
C'est pas le problème.
Il y a un divorce, faut le dire aussi.
Le problème, c'est pas la déception. C'est la qualité de l'information. C'est ça, tout passe par l'information, Adil. Aujourd'hui, quand notre premier canal d'information, Adil, on voit très bien, on est dans les médias tous les deux, on sait très bien les audiences des médias qui chutent. Les gens aujourd'hui s'informent avec Internet. On voit que la qualité de l'information est en chute libre. Et aujourd'hui, quand on a des gens qui s'informent mal, bien évidemment, déjà de un, qui vont voter mal, qui vont mal présenter des idées, et qui vont ensuite avoir des débats stériles. Excusez-moi, aujourd'hui, quand je vois certaines émissions de télévision, et quand je vois certains posts sur les réseaux sociaux, on voit des débats stériles avec des prises de parole stériles.
Pas faux.
Alors, dites-moi, Thierry-Paul Valette, vous parliez d'une montée, y compris du populisme. Vous faisiez référence notamment, on faisait référence à Jean-Luc Mélenchon. Finalement, est-ce que c'est pas aussi, quelque part, la montée du populisme? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de gagner le terrain de plus en plus?
C'est un national populisme qui monte en France, qui monte en Italie et qui monte finalement en Europe.
En Espagne, on a eu un auditeur qui nous confirmait qu'en Espagne, Vox, évidemment, la poussée de l'extrême droite est en train d'arriver au pouvoir.
Voilà, donc on voit la poussée en Espagne, on voit la Ligue d'Italie qui vient de gagner, et on voit l'Assemblée nationale, le Front National, parce que pour moi ça sera toujours le Front National, qui est majoritaire à l'Assemblée, et ça met en danger l'Europe, parce qu'on est en train d'avoir une Europe nationale, populiste, identitaire. Bon, maintenant j'entends parler de... Tout à l'heure, quelqu'un a expliqué que finalement, les citoyens ne s'investissent pas suffisamment.
Karim Yazid qui disait ça, Karim.
Voilà, Karim Yazid. Les citoyens s'investissent. On ne peut pas dire qu'ils ne s'investissent pas. Seulement, les politiques ne les entendent pas, ne les écoutent pas. Ils n'en tiennent pas compte. Pourquoi ? Parce que ça manque de démocratie et ça manque d'outils citoyens démocratiques en France. Mmh. Les gens n'attendent et ne demandent que ça.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut comprendre aussi la situation en France. En France, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là, on demande aux gens de baisser leur chauffage et de pas mettre au-dessus de 19 degrés. Il y a la réforme des retraites. Il faut comprendre aussi que il y a un repli des citoyens, que ce qui se passe au-delà des frontières, ça ne les intéresse pas. Et les politiques qui ont démissionné de certains sujets, notamment la gauche, depuis plusieurs décennies, ça a fait la part belle aux extrêmes, extrême droite et extrême gauche aussi. Donc il faut se réapproprier le débat citoyen. Et les politiques doivent aussi comprendre que dans la radicalisation, parce que radicalisation ne rime pas nécessairement avec terrorisme ou islamisme, la radicalisation, c'est une violence de la société, une violence du discours, et une violence des comportements, comme on l'a vu à Nantes aujourd'hui.
Karim Yazid.
Moi, je constate quand je dis ils s'investissent pas, c'est dans le sens où quand on prend les jeunes, par exemple, il y a les statistiques derrière moi, ce que j'avais entendu, que les jeunes, par exemple, ils s'intéressent pas du tout à la politique.
Je confirme, c'est vrai.
Donc,
mais qu'à voir les élections.
Voilà. Et
ils vont pas voter.
Aujourd'hui,
ils vont pas voter.
Les hommes.
Il y a un fort taux d'abstention. Donc Karim Yazid, effectivement, en quelque sorte, il a raison.
Non, mais c'est pas parce qu'ils ne vont pas voter qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Il y a une nuance à prendre là-dessus. Moi, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que je vais revenir encore sur ce que je disais. En fait, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec vous tous. Pourquoi ? Parce que on dit les citoyens s'investissent, mais est-ce qu'ils s'investissent bien ? Et comment ? Et pourquoi ? Et c'est de la faute à qui ? Est-ce que c'est de la faute des politiques ou est-ce que c'est pas plutôt la faute des GAFA, par exemple, qui prennent le pouvoir en termes d'information et qui justement sont en train de donner des idées mais grotesques dans la tête des gens ? C'est aussi ça la question. Donc, est-ce que c'est de la faute des politiques directement ? Parce que moi, je trouve ça marrant quand même que dans une démocratie, dans un pays qui est censé être démocratique, on rejette constamment la faute sur nos élus. Le problème, certes, il y a des élus qui ne font pas forcément tous bien leur travail. Ça, on est d'accord là-dessus. En revanche, faire des amalgames, je trouve ça un peu dommage.
Bah justement,
voilà.
Concernant les amalgames. Non, mais c'est bien ce que vous avez soulevé comme point, Karim Yazid. Justement, Thierry-Paul Valette, ne bougez pas. Restez avec nous. On va marquer une pause
et
on se retrouve. Tout de suite,
oui.
Y compris au 01 53 48 3000,
d'accord,
avec nos auditeurs.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h52, dans deux minutes, il sera 19h. Merci à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Nous sommes ensemble, y compris au standard. Je vous attends au 01 53 48 3000 pour parler de l'extrême droite, y compris Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou que sais-je, Jordan Bardella ou Mario Maréchal Le Pen peuvent se retrouver en 2027, évidemment au pouvoir quand je dis au pouvoir, ça veut dire à la présidence, hein, attention. Avec nous, donc, pour en débattre, les débatteurs influenceurs, Thierry-Paul Valette qui est avec nous, une des figures des Gilets jaunes, Mehdi Jaziri, mais également aussi Karim Yazid. Messieurs, justement, on est en train de parler d'un point sensible, la nuance entre ceux qui sont politisés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont un acte politique et ceux qui sont sensibles à la chose politique mais n'ont pas pris la décision d'aller voter parce qu'il y a un vrai divorce. Thierry-Paul Valette.
Oui. Alors, une petite précision par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, les GAFA. C'est vrai que les GAFA, il faut s'interroger sur la question, mais il me semble qu'à l'époque de Coluche, la situation était semblable. Il y avait
ça, c'est Midi qui disait ça. Ouais.
Avec la pauvreté, entre autres, et la problématique des politiques, et les GAFA n'existaient pas. Donc, qu'il faut comprendre,
parle de conscience
que là,
politique,
on est en train
de, on parle pas de
là on est en train de prendre plusieurs sujets, on les met dans un sac et on secoue. Et il serait important de pouvoir parler de sujets séparément. Les GAFA d'un côté, de parler de la radicalisation de l'autre, et après pouvoir faire les liens et pouvoir faire les vecteurs entre chaque. Parce que parler de tout comme ça, ça entraîne la confusion. Tout est devenu problématique et c'est un véritable sac de nœuds. Maintenant, Marine Le Pen, dans 5 ans au pouvoir, elle est aux portes du pouvoir. Donc il nous reste 5 ans pour travailler là-dessus. Moi, je suis assez pessimiste. Maintenant, on dit que non, c'est pas nécessairement les politiques. Si, bien sûr, les politiques, ce sont eux qui votent les lois, ce sont eux qui ont les clés du système, ce sont eux qui déterminent la politique et la direction de la nation. Ouais, c'est pas les citoyens.
Qui est-ce qui va voter pour Marine Le Pen?
Maintenant, les citoyens...
Et vous posez une question, Thierry Paul Valette, Mehdi Jazeri.
Qui est-ce qui, au final, va voter pour Marine Le Pen? C'est les politiques qui vont voter pour Marine Le Pen?
Non, ce ne sont pas les politiques qui vont voter pour Marine Le Pen. Les citoyens vont voter pour Marine Le Pen.
Le problème, finalement,
c'est des citoyens. Mais pourquoi des citoyens viennent à voter pour Marine Le Pen? Il faut les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent, ces citoyens? C'est une politique de rejet. Ce qui vient en premier lieu, c'est une politique de rejet. On a tout essayé sauf le Front National. Ils nous ont menti et trahi sauf le Front National. Donc il va falloir lutter aussi contre ça. Maintenant, quand on parlait de la radicalisation, il y a un constat aujourd'hui en France, on parle de radicalisation, mais on ne sait pas comment lutter contre la radicalisation. Actuellement, je suis en train de travailler, entre autres, avec le ministère de la Justice, pour essayer de créer, de mettre en place des outils pour lutter contre la radicalisation dans les centres pénitentiaires. Parce qu'il manque cruellement. D'un côté, il y a la parole du politique qui promet et qui dit beaucoup de choses, et de l'autre côté, sur le terrain, il n'y a pas réellement les moyens. Voilà, c'est pour ça qu'après, la parole est confuse et les sujets deviennent confus.
Oui, mais oui. Alors, Karim Illazid, bon, qu'est-ce qu'on peut dire?
Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur
la poussée de l'extrême droite, attention, qui est aux portes du pouvoir, c'est ce que dit Thierry Paul Valette.
Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais je suis persuadé que, en tout cas, ça sera pas le groupe de Marine Le Pen qui passera au pouvoir dans 5 ans. Et ce qui me fait peur, c'est surtout les alliances. Et de plus en plus, il y a d'alliances de l'extrême droite, on les appelle différents noms. Et c'est vrai que s'il y a une alliance, oui, on risque d'avoir, parce que tout le monde aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général, pas qu'en France, en Europe, et c'est vrai que c'est dangereux. Je m'inquiète, moi aujourd'hui je suis vraiment plus inquiet que toutes les autres années que j'ai passées en France, mais je pense que c'est le devoir des citoyens, c'est le devoir des politiques, c'est un ensemble, et il faudrait que nos politiques s'améliorent un peu plus, parce que il y a une certaine médiocrité qui s'est installée depuis de nombreuses années.
Ah, ça.
Moi, je m'en rappelle autant de même avant Sarkozy, l'époque de Mitterrand, Chirac, j'ai connu. Je suis pas si jeune que ça, même si je le fais physiquement. Mais voilà, j'ai l'impression que tout s'est détérioré. La qualité des discours, des propositions, du travail, on est à l'ère de l'informatique, il y a des lenteurs administratives incroyables. C'est pas que en termes d'immigration, c'est un ensemble qui s'est dégradé en France que je constate, et c'est ça qui me désole.
Mehdi,
c'est ça, c'est la dégradation. Et la dégradation ne se limite pas qu'à la dégradation des débats politiques. La dégradation, c'est la dégradation de notre société de manière générale. C'est pour ça que je parlais du peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, on a un peuple qui s'abrutit. Disons la vérité, on a un peuple qui s'abrutit. Enfin, je veux dire, regardez ce qu'on consomme. Regardez.
Bah, je vais les dire à nos auditeurs si c'est le cas. 0153483000, je voudrais vous entendre.
La culture qui en
chute. Moi, je pense pas qu'il s'abrutit pas.
Regardez simplement
peuple.
Les chiffres à l'école. Regardez le bac aujourd'hui, il est donné. J'ai eu mon bac il y a pas longtemps, je suis jeune, hein, vous savez. Mon bac, il était donné, j'ai même pas travaillé pour. Non mais moi je vous le dis sincèrement, aujourd'hui on a un peuple qui s'abrutit. Donc c'est-à-dire que dans tout ce qu'on consomme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand vous allez dans un magasin et que vous allez consommer, vous avez le choix entre deux produits et qu'il y en a un qui est bon et un qui est moins bon, vous allez consommer celui qui est meilleur. Et à force de consommer celui qui est meilleur, c'est celui qu'on va vous proposer tout le temps. C'est la même chose. Sauf que nous on s'est habitué à consommer des choses grotesques. Donc en fait finalement, est-ce que c'est pas le reflet d'une société qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est ça la question que je me pose. Regardez aujourd'hui quand Emmanuel Macron, pour aller attirer les jeunes, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une vidéo avec McFly et Carlito, avec deux gamins qui vont faire des roulades à l'Elysée. Est-ce que Mitterrand aurait fait ça?
C'est pas la même époque.
C'est pas la même, mais c'est pas une question d'époque. Faut arrêter de mettre tout sur le dos de l'époque. Aujourd'hui, le réel problème, c'est quoi? C'est qu'on on consomme uniquement ce qui est abruti.
Je vais aller. Comme mon écran, il marche pas. Je vais demander à Tarek, notre réalisateur. J'arrive pas à appuyer, donc je sais pas ce qui se passe sur mon écran. Tiens, voilà. Mohamed Djaziri. Bonjour, Mohamed.
Bonjour. Arnaud Djaziri aussi. Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed?
Bah, écoutez, moi, je suis commerçant. Je suis dans la restauration.
Bah, bravo. Ça va, c'est pas trop dur?
Bien sûr. C'est dur.
Mohamed, on vous écoute, mon cher Mohamed. Qu'est-ce que vous dites de tout ça?
Je voulais vous remercier déjà pour votre programme. Déjà, c'est magnifique. Sur Karine Zeribi le matin, déjà.
Oui, c'est ça. Le vendredi, à ne pas manquer. Rendez-vous, 10-12.
Tout à fait, ouais. Je suis honoré d'avoir Karine Zeribi sur vos empêchements.
On l'embrasse s'il nous écoute.
La société aujourd'hui, elle est composée de beaucoup d'assistanats. Ça, c'est sûr. L'école des années 90, maintenant, a changé. Que ce soit, moi, je suis pour l'uniforme à l'école.
Oui.
Quand on regarde sur le programme des jeunes aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas la levée des drapeaux. Les prestations sociales, il ne faut plus les donner en numéraire. Parce que c'est une bêtise de donner des prestations sociales en numéraire.
Ouais. Il faut rejouer. Bah, là, c'est Marine Le Pen qui parle.
Non, mais ça n'a rien à voir avec Madame Le Pen. Laissez Madame Le Pen tranquille. Madame Le Pen profite du courant, de la faiblesse de nos partis politiques, que ce soit la gauche, la droite, le centre. Et du coup, elle s'est confinée, en fait, dans un espace libre. Parce que si vous prenez par rapport à l'Italie aujourd'hui, c'est un pays aussi divisé, parce que entre le nord et le sud, il y a toujours une division entre le nord et le sud en Italie.
Ouais.
Et ça, voilà. Aujourd'hui, vous avez l'extrême qui monte, parce que moi, je vais très souvent en Italie. Il y a un taux de pauvreté au sud de l'Italie, que ce soit la Calabre, Naples. Si c'est pas grâce un peu à l'argent européen, l'Italie du sud. Excusez-moi, mais c'est le Maghreb du Nord.
Non, c'est pas faux. Ouais.
Et c'est vrai.
On connaît aussi un peu l'Italie, effectivement.
Ceux qui connaissent un peu l'Italie, c'est un. Voilà, entre le Nord et le Sud, il y a une division. Ça a toujours existé. C'est pour ça qu'il y a l'extrême qui a pris aussi une place. Parce que ce soit M. Draghi ou avant M. Draghi, avec l'argent européen, ils n'ont fait pas vraiment de développement au niveau d'Italie. C'est pour ça qu'on en est à ce résultat. Et par rapport à la France, pourquoi il n'y a pas un plan Marshall pour détruire toutes ces bourgs, tous ces bars de 20, 25 étages, qui sont à Saint-Denis, Argenteuil, pour ne pas nommer cette population qui voudrait juste bien vivre en France, pour ne pas être stigmatisée.
Ouais.
On a l'argent pour. On a trouvé l'argent pour aller de la ville. Si vous allez à Marseille, vous allez à Lille, vous allez à Montpellier, à Toulouse, il y a des bars HLM qui datent des années 50, 60 ans, qui ne ressemblent à plus rien du tout. Et aujourd'hui, on est sur un plan Marshall.
Ouais.
Pour détruire toutes ces
bon.
Cités.
Bah écoutez, je pense que ça ouvrira le débat, effectivement. Mohamed, merci d'être intervenu. C'est pas vous. Bon, on écoute Mohamed, hein, en même temps, ça va faire réagir 0153 48 3000. Mais dis, moi, ça fait réagir. Il faut qu'on avance parce qu'il y a d'autres sujets qu'on doit traiter.
Là-dessus, moi, ça me fait réagir tout de suite parce que je vais réagir sur le fait qu'il a dit Marine Le Pen profite de la faiblesse des partis politiques. Mais excusez-moi, est-ce que c'est pas le rôle, c'est pas le jeu politique finalement de profiter de la faiblesse des autres? Là, en fait, si vous voulez, moi j'ai l'impression vraiment aujourd'hui quand on parle de ce débat politique justement, j'ai l'impression qu'on est un peu comme quelqu'un qui a le cancer. On attaque les symptômes, mais on n'attaque pas la base du cancer. Les symptômes, c'est que quelqu'un justement profite du fait qu'il y a des faiblesses. Ça, c'est un symptôme. La base du cancer, c'est quoi? Mais c'est ça en fait qu'il faut juste, il faut se mettre ça dans la tête. On est en train de tous tomber dans le panneau de se dire ah il y a un tel qui fait ça, il y a celui qui fait ça. On commente chaque truc comme des imbéciles en fait. On les consomme. Ah il y a ça qui se passe comme si on regardait une série, mais on se concentre pas finalement sur pourquoi est-ce que ça va pas, le fond du problème. Et c'est ça justement le gros problème, c'est qu'aujourd'hui on regarde les dramas qui se passent, mais on cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'on en est là.
Justement, autre sujet qui nous pousse à nous poser la question pourquoi on en est là, c'est la réforme des retraites, parce qu'il faut qu'on avance. La réforme des retraites, vous savez, c'est une réunion décisive aujourd'hui, c'est déroulé à l'Élysée avec Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les membres du gouvernement. Un conseil exceptionnel, donc des ministres, qui s'est tenu. Alors, 49-3, pas 49-3, motion de censure de la part justement des oppositions. Est-ce que cette réforme des retraites, finalement, elle va avoir lieu? Thierry Paul Valette.
pays, alors que la réforme des retraites va avoir lieu, j'ai juste de dire que d'accepter une critique par Madame Banque, on va mettre en place un discours de compromis, tout en brandissant aussi la menace du 43-9. Donc, au final, ça veut dire quoi ? Ben, discuter entre vous, et nous serons et juges et arbitres. Voilà ce qui va se passer. Il y a une mise en scène actuelle de la réforme des retraites. La réponse, une des réponses devait être donnée à la fin du déjeuner vendredi entre Emmanuel Macron
à la fin de semaine.
À la fin de semaine, ça a été reporté à dimanche. On l'attendait aujourd'hui et maintenant on nous dit demain ou après-demain. Bon, donc on sent finalement une imposture. Et j'ai simplement envie de dire, les gens, ce que j'ai entendu tout à l'heure, ils sont pas stupides.
Oui.
Pas du tout.
Oui.
Ils savent très bien ce qui est en train de se tramer. Il y a le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes a montré justement une société qui était mécontente et qui voulait ne plus se laisser faire. Actuellement, on a pris conscience de la problématique du réchauffement climatique. On a pris la conscience de la problématique des violences conjugales. C'est aussi la preuve que c'est une société qui écoute et qui avance. Les gens ne sont pas bêtes. Simplement, ce qui est cassé en France, c'est le lien social. On a une société qui est orientée vers l'individualisme. C'est aussi le propre des sociétés nationalistes et identitaires, malheureusement. Quant à la réforme de la retraite, moi, je vois les syndicats qui sont divisés parce que certains partis politiques et certains syndicats veulent faire une marche contre la hausse des prix. Et de l'autre côté, d'autres syndicats refusent d'y participer. Donc c'est aussi le jeu politique. Et c'est ça qui est triste. Les citoyens sont
pris en otage. Vous irez vous-même, Thierry-Paul Valette, vous irez vous-même manifester dans les prochains jours ?
Bien évidemment que je vais y aller. Bien évidemment. Il faut descendre dans la rue. Il faut montrer qu'on est là physiquement. On n'est pas que là derrière les réseaux sociaux. On n'est pas que là derrière nos smartphones. On n'est pas là pour répondre que à des questions. On est là aussi pour se mobiliser. Les mobilisations, elles sont importantes. Elles sont nécessaires. Même si les mouvements sociaux ont tendance ces dernières années à se radicaliser, il faut lutter aussi contre ça en même temps.
Mehdi Jaziri, ensuite après Karim Liazid, Mehdi Jaziri justement, sur la question de la réforme des retraites.
Moi je respecte totalement l'avis de Thierry-Paul Valette, seulement là on parle du 49-3 de manière générale, pourquoi est-ce qu'on instaure ce 49-3 en fait, on a
c'est pas fait.
Non, mais c'est fort probable. J'ai vu l'interview au JDD de Gabriel Attal. Il l'a quasiment dit, en fait. Il a dit que c'était très probable. Donc, quand on dit que c'est probable en politique, c'est quasiment fait. Voilà.
Ouais, mais en même temps, c'est un aveu de faiblesse aussi.
C'est parce... un aveu de faiblesse, mais c'est aussi la continuité de ce qu'on avait à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, Adil, avant.
C'est la méthode d'Emmanuel Macron.
Avant qu'on aille en vacances, on avait l'énorme problème du blocage de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Moi, je vais rester neutre là-dessus. Je ne vais pas donner mon avis sur la réforme des retraites parce qu'après tout, je suis journaliste. Maintenant, je vais commenter.
On est là pour donner votre
avis. Non, mais je vais commenter. Je vais vous donner mon avis sur la situation de manière globale. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, on a un énorme blocage à l'Assemblée. Que ce soit d'ailleurs même chez la NUP, enfin, on n'a qu'à voir l'affaire Quatennens, ça m'étonnerait que ce soit simplement une affaire entre lui et sa femme. Quand on voit les histoires avec Marine Le Pen, voilà, on a essayé de voir justement s'ils avaient des financements chez les Russes, et maintenant Emmanuel Macron, on va l'attaquer parce qu'il va faire un 49-3, parce que finalement il n'a pas le choix de faire un 49-3 pour faire passer sa réforme, parce qu'il faut au bout d'un moment qu'il fasse passer ses réformes. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec, je dis simplement que dans le jeu politique, quand on est président, on est obligé de faire passer des réformes. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Donc, ça veut dire que là, il se trouve dans une position où il est obligé de faire quelque chose. Donc, en fait, finalement, le réel problème là-dedans, c'est le blocage de l'Assemblée nationale. C'est les alliances politiques qui n'ont pas réussi à être faites. Maintenant, je ne dis pas que je suis pour ou contre. Je dis simplement qu'Emmanuel Macron, finalement, dans son jeu politique, n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il veut faire passer des réformes parce qu'il a promis ça. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que les Français, finalement, quand ils ont voté pour lui l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont voté pour lui, bonne majorité ont voté pour lui.
Ils ont voté pour lui il y a quelques mois. Hein.
Oui, non, mais une bonne quelques mois, excusez-moi. Et ils ont voté pour lui, pourquoi ? Parce que finalement, il y a peut-être aussi Marine Le Pen qui était en face. C'est aussi une réalité, donc les gens n'ont peut-être pas forcément voté pour son programme. Donc là, ils se retrouvent dans une difficulté où, ça c'est mon programme. Sauf que, du coup, je suis obligé de le faire passer maintenant.
Karim Liazid ?
Ben, c'est quoi cette réforme de retraite déjà? Il faut savoir qu'est-ce qu'elle présente aujourd'hui pour les citoyens, parce que c'est vraiment une patate chaude. Tout le monde, le gouvernement actuel en a peur de présenter ça. Mais moi, je suis persuadé, même s'ils utilisent le 49.3, il y aura une commission de censure automatique. Je pense qu'il sera présenté.
Ah oui, il y aura des mentions de censure, ça c'est sûr.
Et de toute façon, toute réforme qui serait votée de force, c'est au peuple de dire non, tout simplement. Je suis d'accord avec Paul Valette, c'est ça?
Thierry Paul Valette.
Il faut sortir, bien sûr, il faut dire son mécontentement. Il faut surtout pas rester derrière son téléphone. Et je suis entièrement d'accord avec lui sur ce sujet-là.
Bien sûr. Après, ça c'est l'action, encore une fois. Le véritable fond, c'est est-ce que aujourd'hui on est quand même dans un pays où on vote pour le président qu'on aime, pour le programme du moins qu'on aime. Est-ce que c'est pas finalement un problème qu'on vote par défaut? C'est aussi ça, parce que c'est ce qui se passe en fait. On se rend compte que finalement Emmanuel Macron, c'était pas forcément, parce que quand on voit là, je sais que le 29, il y a une énorme mobilisation qui va se faire, notamment avec Solidaires et je sais plus la CGT, etc. Mais en fait, on a voté pour qui? Et pourquoi on a voté pour lui? Et pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est complètement fouillis? C'est ça le véritable problème. Le 49-3, c'est quelque chose de totalement normal. Si Marine Le Pen avait été au pouvoir, elle aurait fait la même chose. Si Jean-Luc Mélenchon avait été au pouvoir, il aurait fait la même chose. C'est simplement, quand tu es président de la République, tu dois faire passer des réformes. Et si tu ne peux pas les faire parce que l'Assemblée est bloquée, tu fais un 49-3.
Thierry-Paul Valette? Allô? Thierry-Paul Valette, vous êtes là?
Oui, allô.
Oui, Thierry Paul Valette.
Oui. Voilà.
Finalement,
j'ai juste envie de rappeler une chose quand même, c'est que le second mandat d'Emmanuel Macron, il y a eu d'une part le Front Républicain et beaucoup de gens qui aussi n'ont pas voté. Et l'abstention a été forte. Donc c'est pas un vote de plébiscite pour un programme et pour des réformes. Oui. De toute façon, si Emmanuel veut passer en force, c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. C'est parce que les gens ne veulent pas de cette réforme, les syndicats n'en veulent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de toute façon, cette nécessité de réforme, ce n'est pas le bon timing. On rentre en récession, on est dans une crise sociale, on va plus avoir assez d'argent pour payer l'électricité, pour le gaz. L'hiver, il va être difficile. On nous impose de baisser la température.
L'hiver va être difficile. Degrés. C'est bien de le rappeler. Et effectivement, vous rejoins, l'hiver risque d'être très difficile.
Pardonne-moi Adil, mais pourquoi il serait difficile, puisque Macron a dit lui-même qu'il avait rempli les stocks à 90% et il est parti en Algérie chercher les 8% restants. Je vois pas pourquoi il y aurait une pénurie, pourquoi il y aurait une augmentation des tarifs.
Parce qu'Elisabeth Borne, en fait, Elisabeth Borne nous avait proposé une politique de sobriété, c'est-à-dire en fait faire attention à ce qu'on consomme, parce qu'il y a des foyers qui risquent de manquer d'électricité. Il y a aussi les entreprises derrière, il y a aussi tout ce problème-là. Mais je pense que le problème de l'électricité, au bout d'un moment, il faut aussi comptable dans les entreprises. Enfin, il y a des entreprises qui, là maintenant il y aura des règles strictes, mais auparavant, excusez-moi, quand on va à Saint-Lazare par exemple à Paris et qu'on voit toutes les lumières des magasins allumées la nuit, quand les magasins sont
fermés, des entreprises aussi,
c'est la défense à Paris,
la défense, c'est
ridicule, enfin voilà, et en fait
tout est allumé.
Est-ce que c'est pas que des mesurettes, parce que franchement on demande beaucoup aux citoyens de faire des efforts, on n'arrête pas de leur demander depuis une vingtaine d'années, et ça monte au crescendo, ils sont pris à la gorge, faut les comprendre. Aujourd'hui les gens n'arrivent plus à payer, vous rendez compte, un loyer, un studio à 700-800 euros, quand vous gagnez 1100, le SMIC, c'est à peu près ça net. Excusez-moi, mais vous les forcez à truander, à voler, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, parce qu'il faut bien qu'ils s'en sortent, ces gens-là. Et c'est là qu'il est le danger. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais il faut faire très attention à ça, parce qu'on est en train de s'appauvrir de plus en plus. Alors si en plus l'électricité triple, quadruple, où vous allez?
Allez, on marque une pause. La dernière, avant la dernière ligne droite, il nous restera les deux sujets. Julien Bayou, l'affaire Katnas, la Russie. On revient tout de suite. Restez avec nous, surtout ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h25, avec Karim Yazid, avec Mehdi Jezeri, et enfin avec par téléphone Thierry Paul Valette. Alors messieurs, tout de suite, c'est la dernière ligne droite, on va parler de Julien Bayou notamment, et des violences faites aux femmes. Alors, est-ce que vous considérez que l'un et l'autre, Katnas, Julien Bayou, doivent démissionner et se mettre en retrait de la vie politique? Thierry Paul Valette, tiens.
Alors, c'est pas compliqué, parce que là, Mélenchon et son parti se sont mis les pieds dans le tapis. Ils ont mis en place une cellule pour lutter contre la violence faite aux femmes. Ils ont été les premiers à monter au créneau quand d'autres politiques étaient concernés. Et aujourd'hui, parce que ce sont un des leurs, notamment Katniss, alors forcément, là, les cadres féministes du quartier néo-féministe, comme Clémentine Autain, ah oui, mais écoutez, c'est différent, on va l'écarter. Voilà, donc la problématique, c'est que oui, il faut lutter contre les violences faites aux femmes, mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose de détourné et qui devienne une arme de destruction massive. Quand j'entends certaines personnes expliquer que la lutte contre la violence faite aux femmes, on n'en parle pas à la télé, les politiques ne font rien, on ne leur donne pas d'argent, je pense que quand même depuis la Terre MeToo, on en parle énormément dans les débats télévisés. Il me semble que Marlène Schiappa, à l'époque où elle était ministre de l'égalité homme-femme, était très active. Il y a eu beaucoup d'argent de donner pour les associations. Donc c'est pas un sujet qui est passé sous silence. Simplement, le rendre politique et le politiser, c'est quelque chose qui me dérange et qui est dangereux. Maintenant, bien évidemment, ces personnalités publiques et politiques qui se sont prononcées quand il s'agissait d'autres personnes, d'autres partis qui les appelaient à la démission, doivent évidemment se mettre en retrait.
Alors, tiens, un tour de table, justement, messieurs. Cette affaire qui occupe le débat politique, y compris médiatique. Mehdi Jaziri.
Je vais commencer par une question, mais je vais répondre très vite. Est-ce qu'on a une justice en France? C'est ça la question. Parce qu'on est en train de se dire, est-ce qu'il doit démissionner, etc. Mais est-ce qu'on a une justice? Est-ce que la personne qui est boulanger, par exemple, doit démissionner de son travail parce qu'il a été accusé de telle ou telle chose? Est-ce que le fait d'être politique, c'est un simple travail ou pas? Enfin, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Moi, j'aimerais
le boulanger simplement... ne représente pas le peuple.
D'accord, sauf que c'est justement la question que je me posais.
Voilà.
On pose la problématique.
Voilà.
Non, mais on pose d'abord la problématique. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que je trouve ça quand même dommage qu'on a cette espèce de tribunal médiatique qui s'est montré.
C'est ce que vous voyez
grand,
là.
Voilà, qui s'est montré plus grand que le tribunal français. Pourquoi? Parce que justement, on met pas du tout les moyens. Ça aussi, c'est un vrai problème parce qu'on dit toujours les juges ne font pas leur travail ou les policiers ne font pas leur travail. C'est faux. C'est simplement qu'on n'est pas les moyens dans les formations chez les policiers. Et ensuite, on met pas les moyens dans la justice. C'est-à-dire que j'ai entendu dans une manifestation l'année dernière, justement, de juges et de magistrats, que certains venaient même avec leur propre stylo parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Enfin, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent et du coup, il n'y avait pas assez de matériel pour tout le monde. C'est quand même grave. Enfin, voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est ça d'abord la problématique de manière générale. Maintenant, si on parle du plan politique, est-ce qu'il devrait partir ou non? Moi, je pense qu'il faudrait être humble là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, que n'importe quelle personne.
C'est-à-dire
En fait, n'importe quelle personne qui n'est pas de LFI va dire ah non, il faut qu'il parte tout de suite. Quelqu'un d'LFI, bon, il va avoir un peu plus de mal parce que c'est quand même le numéro 2 d'LFI. C'est quand même le petit chouchou de Jean-Luc Mélenchon et on sait très bien que chez LFI tout le monde adore Jean-Luc Mélenchon, c'est un dieu. Donc en fait il faut je pense qu'il faut remettre les choses en vraiment chacune des choses dans leur place. Je pense qu'il faut faire un vote, pas un vote chez LFI, pas un vote chez l'opposition, mais un vote chez les Français. Il faut être humble, une sorte de référendum. Est-ce que vous voulez simplement
voilà, Karim
qui démissionne
Karim Yazid, on finira avec vous.
Bah écoute, moi je condamne toute forme de violence envers les femmes, hein, surtout les plus fragiles. Mais aujourd'hui en politique, ça devient une arme. Et ça me dérange. Donc ça me dérange énormément et ça devient pratiquement, je dirais, pas crédible. Maintenant, est-ce qu'il doit démissionner? Je peux pas décider pour lui, mais s'il a fait vraiment une faute très grave, il faut absolument qu'il démissionne parce qu'il représente le peuple. Mais aujourd'hui, présentez-moi un homme politique qui soit parfaitement représentatif.
Lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire et merci de l'avoir dit. Bien évidemment, on est tous contre les violences faites aux femmes, on soutient même les femmes qui aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup plus même de féminicides, etc. C'est très grave ce qui se passe. C'est pas du tout en train de se calmer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Maintenant, il faut vraiment se rendre compte d'un truc, c'est que l'arme politique, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ça date d'il y a très longtemps et on utilise un peu tout. Enfin, je veux dire, encore une fois, le politique reflète le peuple et aujourd'hui, c'est vrai. que on utilise tout et n'importe quoi comme arme politique. Moi, je pense que le problème, c'est pas finalement l'arme politique, c'est simplement quelle est la place justement de.
On arrive au terme de l'émission. Pardonnez-moi. Allez-y, Thierry Paul Valette.
Ce qui est important, c'est que les violences faites aux femmes, il faut les condamner, il faut lutter contre, mais elles s'inscrivent dans les violences familiales, intrafamiliales. Ce sont aussi des violences faites aux hommes, des violences faites aux enfants. Ce sont aussi l'inceste. Voilà. Donc, il faudrait aussi réunir tout ça et lutter contre ça.
Oui.
Pour cet ensemble-là. Il faudrait même un ministère dédié des violences intrafamiliales.
Karim Yazid, absolument.
Oui, entièrement d'accord. Mais c'est ça. Voilà. J'allais dire tout à l'heure que il faut condamner toute forme de violence et qu'elle soit que envers les femmes, mais ça soit aussi envers les hommes. Il y a des hommes aussi qui sont battus. Il y a plein de formes de violence et qu'il faut absolument traiter le plus rapidement possible. Voilà. Comme disait Mehdi tout à
merci
l'heure.
Merci à Karim Yazid, acteur franco-algérien.
Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et les réseaux sociaux.
Absolument.
Héliopolis, qui est un des derniers films que j'ai fait, long métrage, qui est passé au Centre culturel algérien.
Absolument, voilà. Très bon film. Merci à Mehdi Jaziri, journaliste indépendant. Merci à Thierry Paul Valette, que vous allez retrouver. Il l'a annoncé en direct, ça y est. Manifestation prochaine, il sera présent durant la mobilisation des manifestations. C'est ça, Thierry Paul Valette. Merci à vous, Thierry Paul Valette. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À la réelle, c'était Tarek. Merci à vous tous, comme tous les soirs, chaque nombreux, tous les soirs, 0153483000. Merci à vous. On se retrouve demain, Bilan Edman, 20-21, et ensuite Vanessa. Et quant à moi, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.